Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un pas vers la paix. Washington et Téhéran confirment un accord à l'aube d'un sommet du G7 qui devrait servir à peaufiner les derniers détails avant la signature prévue vendredi à Genève. La philo au programme des futurs bacheliers qui viennent de soulever leur copie à l'instant alors qu'on attend de fortes chaleurs. Cette semaine, en plein bac, le gouvernement propose de mettre fin aux épreuves l'après-midi dès l'année prochaine. Et le compte à rebours est lancé à J-1 du premier match des Bleus à la Coupe du Monde face à des Sénégalais déterminés. RMC s'est rendu à Dakar. Reportage dans ce journal.
Donald Trump attendu en France cet après-midi.
Après avoir organisé cette nuit un combat de MMA à la Maison Blanche pour ses 80 ans, le président américain va s'envoler donc pour le G7 à Évian. Le sommet prend une toute autre dimension cette année en raison de l'accord de paix confirmé hier soir par les États-Unis et l'Iran. Les deux parties ont prévu de se retrouver vendredi à Genève pour une cérémonie de signature. Romain Cluzel, service politique RMC, nous rejoint. Certains détails doivent encore être réglés. Ils seront sur la table du G7, Romain, et même dès cet après-midi, 17h30 à l'occasion d'une rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron compte insister sur deux points. D'abord, la sécurisation du détroit d'Ormuz. Après l'annonce de l'accord, Donald Trump s'est réjoui d'une réouverture pleine, sans droit de passage pour les bateaux. Mais le détroit reste dangereux. Les Iraniens ont installé de nombreuses mines depuis le début du conflit. C'est pourquoi Emmanuel Macron, accompagné du Premier ministre britannique et d'autres pays, propose une coalition pour permettre aux bateaux de franchir le détroit dans les prochains jours et les prochaines semaines. Une condition indispensable à la stabilité régionale et à l'économie mondiale, insiste le président. Et puis Emmanuel Macron veut s'assurer que la fin du conflit s'applique pleinement au Liban. Le chef de l'État réclame un cessez-le-feu robuste et durable pour que le pays retrouve sa souveraineté territoriale. Encore hier, avant l'annonce de l'accord, Israël a bombardé le sud de la capitale Beyrouth et on attend toujours ce matin la réaction de Benjamin Netanyahu à cet accord. Le président français compte aussi évoquer avec Donald Trump les négociations qui s'ouvrent désormais entre États-Unis et Iran, notamment sur le programme nucléaire iranien.
Donald Trump et les autres dirigeants du G7 attendus pour 3 jours au bord du lac Léman à Évian, je vous le disais, barricadés, placés sous très haute sécurité. 16 000 policiers et gendarmes sont déployés sur place pour l'occasion. Rachel Sadoudine, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place et en direct ce matin dans cette ville de 10 000 habitants quasiment coupée du monde sous cloche.
On n'a jamais aussi bien entendu le chant des oiseaux dans le centre-ville d'Évian. Quasi aucune voiture, hormis quelques patrouilles de police, de gendarmerie. Et pour cause, il faut un laissez-passer avec un QR code pour entrer dans la ville. Benoît, responsable d'une boulangerie, n'avait pas vu ça depuis le Covid.
La ville d'Évian est morte, en tout cas de clients. C'est-à-dire personne dans les rues ou très peu. Et de ce fait, on a une perte d'exploitation à peu près de 50 à 60% par rapport à d'habitude.
Pour limiter la casse, beaucoup de commerces ont renoncé à ouvrir pendant ce G7. Pas mal de grilles fermées autour de moi, mais les hôteliers, eux, s'en sortent bien comme Séverine.
Dans une petite bulle. En vrai, c'est une période super sympa à vivre en tant qu'habitant. En tant que commerçant, c'est différent. Les hôteliers, on s'en sort bien parce qu'on a toutes les délégations, tous les journalistes à loger, donc on s'en sort bien au niveau de l'hôtellerie. On circule dans les vies encore mieux qu'avant. Non, c'est vraiment une bulle de plaisir.
Le plaisir, pas sûr qu'il soit partagé par les élèves de terminale. Le lycée d'Évian étant fermé, le périmètre bouclé, eh bien, ils ont dû prendre le bus très tôt ce matin, escorté par les forces de l'ordre, direction Thonon-les-Bains pour leur épreuve de philosophie du baccalauréat qui vient d'ailleurs de débuter.
Rachel Sadoudine, en direct d'Évian ce matin pour RMC. La guerre au Moyen-Orient, donc ses conséquences aussi, on vous en parle régulièrement dans ce journal. C'est le cas des prix des carburants. Si les cours du pétrole repartent à la baisse sous les 85$ ce matin, il faudra encore du temps avant de voir les effets à la pompe. Et pour des milliers de Français, il faut continuer à vivre. Travailler, parfois le ventre vide, c'est le cas pour une majorité de travailleurs précaires, des CDD, intérimaires ou encore temps partiel, vivant sous le seuil de pauvreté, contraints de restreindre leur quantité de nourriture. C'est le résultat d'une étude Ipsos pour le réseau d'épiceries solidaires andaises que vous révèle RMC ce matin. Et pour 40% de ces travailleurs pauvres, sauter un repas n'est pas un choix. Solène Leroux a pu s'en rendre compte à Paris.
Au sein de ce jeune couple, le seul salaire fixe, à peine 1500 euros par mois, c'est celui de Mitya, vendeuse, compliqué de faire des courses convenables.
Des fois, j'ai des envies de bonnes salades, de bons fruits,
Et quand je vais voir le prix, ça me donne même pas envie de manger. Quand tu payes le loyer, les charges et tout ce qui s'ensuit. Deuxième semaine, on commence déjà à manger des pâtes. Hein.
Beaucoup de féculents, c'est presque la routine pour 70% des travailleurs pauvres. Scheherazade a beau être employée dans un restaurant scolaire, c'est difficile de nourrir ses deux enfants.
Les salaires ne bougent pas, l'avion, tout ça, ça coûte très très cher. J'ai mangé assez, oui. Quand il y a des bons trucs, je les donne à mes enfants. Je préfère mes enfants avant moi.
Je suis Thierry, je suis trésorier de Solidaya, donc il y a une épicerie solidaire.
C'est un lieu où les personnes dans le besoin peuvent faire des courses à bas prix. Environ la moitié des bénéficiaires ont un travail.
Des personnes en CDI, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, on ne voyait pas encore. Mais là, on a de plus en plus de gens qui ont un emploi. Simplement, ça ne leur permet plus de vivre correctement.
La solidarité nationale, on ne la voit pas forcément, dit-il. Plus de 4 travailleurs pauvres sur 5 se disent abandonnés par les pouvoirs publics.
RMC 8h05, attention au coup de chaud. Avec la hausse des températures attendues en milieu de semaine, on pourrait dépasser les 30 degrés ce lundi par endroit. Et c'est dans ces conditions que débutent les épreuves du bac. La première, elle a déjà commencé pour 530 000 bacheliers, concentrés sur la philo depuis maintenant 5 minutes. Et justement, la question de la chaleur pendant les épreuves, elle fait débat. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, veut y mettre fin l'après-midi à partir de 2027. Décision un peu tardive, selon Sophie Vénitité, secrétaire générale du SNES-FSU.
Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage. C'est-à-dire que là, on a un ministre qui, 3 jours avant, se dit, ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait mettre les épreuves que le matin. C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Donc le signal est très clair. Le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques. Et c'est absolument scandaleux.
Sophie Vénétité, invitée d'RMC ce matin. L'appel à de nouveaux rassemblements devant les tribunaux du pays ce soir pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le sillage de l'affaire Liana. On est à J-1 de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les hommes de Didier Deschamps ont quitté Boston pour New York. C'est là qu'ils vont affronter le Sénégal demain 21h sur RMC. 24 ans que les deux nations ne se sont pas affrontées. C'était en 2022. Les Bleus n'en gardent pas un bon souvenir. À l'inverse des Sénégalais, sûrs de leur force cette année encore. Nos équipes se sont rendues à Dakar pour RMC. Arnaud Valadon.
Oui, et au Sénégal, ce match face aux Bleus sera l'événement le plus regardé de l'année à la télévision par des supporters qui affichent une confiance débordante.
Ça sera chaud parce que c'est France et Sénégal, mais à la fin, on sait qui sortira vainqueur.
Et c'est qui ?
C'est le Sénégal, c'est clair, mec, c'est clair, c'est le Sénégal.
Impossible de ne pas sénégalais. Avec cette belle équipe que nous avons, moi, l'objectif que j'ai dans ma tête, c'est tout simplement aller conquérir le monde et on va se donner les moyens pour.
Et si l'équipe nationale marche bien, c'est grâce à ses jeunes joueurs, selon Mohamed, entraîneur au club de Dakar Sacré-Cœur.
La formation qu'on a eu à cette décennie-là nous a fait du bien. Les clubs formateurs comme le nôtre et les autres académies font du bien à l'équipe nationale.
Pour Adama Kandé, journaliste à 2S TV, deuxième chaîne de télé du pays, tous les Sénégalais ont encore en mémoire la victoire 1-0 contre la France en ouverture du Mondial 2002.
Elle a permis cette Coupe du Monde de révéler des joueurs parce que beaucoup ont eu des contrats en Angleterre. Donc on ne peut pas oublier de sitôt cette année 2002. Donc tout ceci réuni fait qu'aujourd'hui, vous avez vu même dans l'attelage technique de l'équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs de 2002 qui sont là.
C'est par exemple le cas de Pape Thiot, l'actuel sélectionneur qui compte bien rééditer l'exploit face aux Bleus demain soir.
Et oui, le dernier France-Sénégal, c'était en 2002. Et ce sera demain, 21h, sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, avec le début ce soir de la Belgique. Cette nuit, la Suède a battu la Tunisie 5-1. Les Pays-Bas font match nul face au Japon 2-2. À retenir aussi le succès écrasant de l'Allemagne face aux novices du Curaçao, 7-1.
C'était le journal de Thibaut Texer.